سلام هموطن، اوضاع شدن راحته، هر روز روبرو شدم با جنگ 24 ساعته. ناامید نفس میکشیم زیر سقف جنگ، شب و بیدار تا صبح از صدای بنگ بنگ. همه شعار میدیم دنبال عدالتیم، لالو وزی خرابه خود ما ملامتیم. مایی که اگه بره وحدت هم جای گپ شد، نوگه هم به سیره مگی به سمت راست چپ شد. همه تقسیم شدیم به گروه های نحیفه که شکست میخوریم با یک باد ضعیفه. اینه که وطن شده میدون جنگ های بزرگ، با ما هم پرداختیم سر جنگ تاجیک یا تور. دیگه خاتمه دیم به بسای قومگراهی، بره وحدت هم پیشنهاد بکنید راهی، راهی که اثری نباشه از تنگ و توفنگ، خالی از ویرانی و خاطرات تلخ جنگ. خاطراتی که یادآورن از وطن جنگ، از زندگی چی فهمیدیم جز هم مهاجرت. بین ما و تو از قومیت دیواری است که از هم جدا ساخته ما رو، اما راهی است. وقتی ما و تو و ما همه کنار هم هستیم، نمیسازه چیزی ما رو جدا از هم. تفکرات نباید دور کرد ما رو از هم، راحت بودن ما با هم یعنی استقامت. مقاوم متحد یک برچه برابر، از گروه های کوچک هستیم فراتر. هشتو ازاره تاجیک و ترکمن، به هم نیاز داریم در ساخت فردای وطن. مقاوم متحد یک برچه برابر، از گروه های کوچک هستیم فراتر. هشتو ازاره تاجیک و ترکمن، به هم نیاز داریم در ساخت فردای وطن. میشود با هم دوست بود جو خواهر و برادر، میشود از جان ساخت پولی معتبر. بین ما و تو و کوبیدن مرزا در هم، سرود صلح خواند گل دو دست هم. آغاز یک روز به دور از راکت و مرمی، در گذر به هم بدیم سلام گرمی. روز اتحاد، روز دوستی همدلی، روز شادی ما و تو وطن ملی. وطن یعنی می، یعنی تو، یعنی ما. وطن یعنی به یک نماد افغان ها. وطن پازی نیست که قطع آتش مایی من وطن، جزوبت هر وقتی شکل با هم متفاوتن. پشتو هزار تاجیک و بلوچ و ترک من، به هم نیاز داریم در ساخت فردای وطن. به بیرق بالو رنگ سرخ غرور ماست، رنگ سیاه ذلیل کردن دشمنا، رنگ سبز فردای روشن ماست که پاینده میشه جایی که سرزمین ماست. همه متحد پیروزی در کمین ماست، متحد همچو یک جسم و جان. زنده باشی هم وطن، زنده بود افغانستان. مقاوم متحد یک کلچه برابر، از گروه های کوچک هستیم فراتر. پشتو ازاره تاجیک و ترکمن، با هم نیاز داریم در ساخت فردای وطن. مقاوم متحد یک کلچه برابر، از گروه های کوچک هستیم فراتر. پشتو ازاره تاجیک و ترکمن، با هم نیاز داریم در ساخت فردای وطن.
C'était la rappeuse afghane Sonita Alizadeh avec son titre United. Maître Savary Goumi, spécialiste en droit du travail, de la fonction publique et droit des étrangers, et Valérie El-Bakali, représentante du collectif Aide aux migrants, composé d'associations avec entre autres le MRAP, Amnesty International, CCFD Terre Solidaire, Terre Active et le Secours Catholique. Alors, si j'ai choisi de vous interviewer ensemble pour clôturer ce quatrième numéro, c'est parce que vous travaillez souvent main dans la main. Comment l'une et l'autre accompagnez-vous les personnes étrangères qui arrivent dans les Landes ?
Eh bien, en premier lieu, effectivement, je pense que quand même le premier accompagnement, c'est un accompagnement associatif. Parce que traditionnellement, ces personnes, quand elles arrivent, elles ne savent pas forcément à qui s'adresser. Elles sont un peu démunies, il n'y a pas forcément de connaissances des acteurs qui peuvent les aider sur le territoire. Et du coup, il y a pas mal d'associations, notamment le MRAP, la CIMAD, mais d'autres aussi, qui sont disponibles, qui tiennent des permanences et qui reçoivent du coup ces demandeurs d'asile ou ces étrangers, hein, tout simplement, qui sont présents sur ce territoire et qui ne savent pas vers qui s'adresser, et qui leur donnent des renseignements. Et alors ensuite, dans le cadre de ces renseignements, évidemment, il y a des renseignements juridiques, il y a l'information de la possibilité d'être assisté par un avocat, et je ne suis pas la seule hein, à traiter ce type de dossier dans les Landes. J'ai aussi des confrères qui le font. Et il y a aussi d'autres accompagnements pour essayer de trouver un logement, de remédier à d'autres difficultés médicales aussi parfois. Donc effectivement, je pense quand même que la porte d'entrée, c'est la porte d'entrée associative avec cette information qui est délivrée. Et ensuite, eh bien, ces personnes s'en saisissent ou pas aussi, puisqu'il y a une vraie difficulté quand même quand on est dans cette situation-là d'avoir l'énergie nécessaire pour se sortir de ces situations compliquées et de situations souvent à la rue. Elles s'adressent soit un avocat, donc moi ou d'autres confrères qui faisons la permanence droit des étrangers du barreau de Mont-de-Marsan, soit à d'autres interlocuteurs qui peuvent les aider aussi dans leur parcours.
Sur les 300 personnes étrangères qui arrivent dans les Landes qu'évoquait tout à l'heure Olivier oui. Superchico, vous en rencontrez combien, vous, à peu près?
Alors, en fait, ce chiffre me paraît un petit peu biaisé, si je peux oui. dire, parce que on est, si j'ai bien saisi ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur Cyberchico, on est sur 300 personnes qui sont admises dans le cadre du droit d'asile à rester dans les Landes. Le droit des étrangers et l'accompagnement juridique ou l'accompagnement associatif vis-à-vis des étrangers, il a un champ beaucoup plus large, puisqu'on accompagne à la fois les gens qui sont en demande d'asile, donc qui ne sont pas forcément admises à l'asile et qui n'ont pas forcément la protection qui va avec, le statut de réfugié, mais il y a aussi l'accompagnement de tous les gens qui sont déboutés du droit d'asile. Et là, si on prend les chiffres de l'OFPRA, on est quand même sur quasiment plus de 50% de personnes qui font une demande en France par an et qui sont déboutées du droit d'asile. Donc en France, en 2020, ça représentait 62 000 personnes qui étaient sans solution au titre du droit d'asile. Et ces gens-là, après, il faut trouver une solution juridique, notamment, pour se régulariser et pour pouvoir rester légalement sur le territoire français. Donc, finalement, les étrangers qui peuvent être accompagnés par les associations ou qui peuvent être accompagnés par les avocats, c'est beaucoup plus large que ça. Ouais. Ça recoupe à la fois les demandeurs d'asile admis à l'asile, en demande d'asile en attente de réponse, les gens déboutés, et après tous les étrangers qui viennent aussi des fois avec des visas touristiques ou qui viennent sans visa et sans aucune solution légale, qui traversent illégalement les frontières et qui doivent trouver un moyen juridique de rester sur le territoire. Donc on est vraiment sur des chiffres qui sont sans commune mesure, en fait, avec le tout petit peu, le tout petit nombre de demandeurs d'asile admis dans les Landes et qui restent sur le territoire landais.
Et vous avez donc souvent affaire à des personnes qui sont donc entre deux situations comme ça, en attente ou qui ont été complètement déboutées de ces demandes?
Alors, bonjour, merci de m'avoir invité. Oui, donc on est sollicité dans le cadre de nos associations où, comme disait Marianne, nous avons des permanences. Au départ, on avait des permanences un peu comme ça, épisodiques. Maintenant, c'est journalier, je dirais même, c'est presque H24 avec un téléphone, un numéro d'urgence. On est confrontés, finalement, assez peu, nous, les associations, par les demandeurs d'asile, puisqu'ils rentrent dans leur réseau. Du CADA, de l'OFPRA, et donc en général, ils reviennent vers nous quand ils sont déboutés ou avec une OQTF, mais on est beaucoup sollicités.
Alors, une obligation de quitter le territoire français.
Oh, pardon, obligation de quitter le territoire français. Sinon, on est énormément sollicités par tous les autres qui savent très bien qu'il n'est pas, ça n'est pas la peine de demander l'asile et le statut de réfugié, puisque leur pays, dans leur pays, ils ne sont, entre guillemets, pas en danger. Ce n'est pas un pays en guerre, ce n'est pas un pays où ils risquent forcément leur vie. Ce sont beaucoup, beaucoup, pour les Landes en tout cas, de jeunes d'Afrique de l'Ouest subsaharienne. Et c'est pour ça, quand on parlait tout à l'heure de 300, je ne sais pas ce que c'est, ce chiffre de 300, déjà, nous, dans les prétendus... ceux qui se disent MNA, ou peut-être un petit peu plus, mais nous, on s'en fiche de savoir si...
Mineurs en accompagnés.
Mineurs, oh là là, mais excusez-moi.
C'est l'habitude, c'est le terrain, ça.
C'est le terrain, c'est terrible. Ces jeunes-là doivent donc prouver leur minorité pour avoir une carte de séjour. Ils ne prétendent pas au statut de réfugié, ceux-là. Et ils sont très nombreux sur les Landes aussi. Ça va doubler l'effectif, là, si on est en termes de nombre.
Et donc, l'idée de ce collectif Aide aux migrants qui rassemble toutes ces associations, il est né comment?
Alors, on se rend compte que sur le territoire landais, on le disait encore tout à l'heure avec Marianne, ce collectif, on devrait être encore plus nombreux dans ce collectif, parce qu'on se rend compte que sur le territoire, de nombreuses associations ou de gens comme ça, à titre bénévole, s'organisent pour accueillir ces migrants. On s'est rendu compte que déjà on avait une carence juridique, alors on a trouvé Marianne, merci, un grand merci à Marianne, et après c'était aussi, certains sont plus sur le pan de l'accueil pour des logements, d'autres pour essayer d'insérer sur le plan social avec les clubs sportifs, avec tout à l'heure on le disait, ça y est, j'ai avalé les Restos du Cœur, pardon. Donc, on s'est rendu compte que tous, on avait un petit peu nos petites qualités et nos pans d'action. Et on se réunit comme ça, mais on se sent encore très démunis. Et on se dit que peut-être il faudrait voir une autre solution pour qu'on fédère tous, qu'on soit plus efficient pour ces accueils-là, parce qu'il y a encore vraiment, c'est un travail de tous les jours, hein.
Je pense que ce qu'il faut souligner sur ce sujet, c'est le fait qu'on est sur un cadre juridique qui est extrêmement complexe. Parce qu'en fonction du profil de l'étranger, selon le fait de savoir s'il est mineur, s'il est majeur, s'il est malade, s'il a un parcours déjà scolaire ou pas de parcours scolaire, s'il a déjà de la famille, il y a tous ces critères-là qui entrent en ligne de compte pour adapter la solution juridique et derrière aussi décliner l'accompagnement associatif, puisqu'en fonction de la solution juridique qui est retenue, l'accompagnement associatif, il peut être différent. Il y en a qui arrivent à se loger, il y en a qui n'y arrivent pas. Voilà, il y en a qui ont besoin de soutien au niveau des cours de français, il y en a qui ont besoin de travailler, d'autres moins, ou qui ne peuvent pas parce que pour raison médicale, ça n'est pas possible. Donc c'est vrai que je pense que c'est ça qui fait naître le besoin de collectif, parce qu'en fait, plus on est nombreux, plus on peut échanger sur à la fois les pratiques, mais aussi être tous au même niveau d'information sur la réponse juridique qui peut être apportée, et plus la réponse vis-à-vis de l'étranger qui est en situation de difficulté, elle est efficace. Donc c'est vrai que je pense que c'est un peu ça qui a fait naître le collectif, peut-être initialement, c'est ce constat que finalement, tous ces efforts est extrêmement important, hein. Mais mis en œuvre individuellement, ne peuvent jamais être aussi efficaces qu'un effort qui va être collectif, une information qui va être partagée, et du coup des actions qui auront plus de portée et qui préservent aussi un peu les personnes, parce que ça reste quand même quelque chose de difficile à porter humainement à titre personnel.
Il y a un cas qui a fait un petit peu parler de lui il y a quelque temps dans les Landes, c'était Maria et sa famille. Maria, c'était une étudiante à Victor Duruy. Ses camarades de classe se sont fortement mobilisés et ont alerté pas mal de médias, même au plan national, pour que justement sa demande soit acceptée et qu'elle puisse, avec sa famille, rester sur le territoire landais.
Alors, de ce fait, ils se sont rapprochés de notre collectif et du coup, il nous est paru évident qu'il fallait raviver, parce que ça existait il y a quelques années, le réseau RESF, Réseau Éducation Sans Frontières. Donc, RESF 40 est né à ce moment-là, enfin, René.
Tel le phénix.
Parce qu'effectivement, on était sollicités par des lycéens qui avaient à cœur d'aider leurs camarades, qui avaient une obligation de quitter le territoire français avec sa famille. Et du coup, les enseignants ont suivi. Il y a eu une énorme solidarité. Donc, on a pu empêcher que Patricia, maman de 5 enfants, ils sont... soit renvoyée dans son pays où elle était en danger. Elle a été déboutée effectivement du droit d'asile. Donc, le réseau a caché Patricia et les gamins ont pu continuer. Enfin, on a eu un moment d'accalmie au moment des vacances scolaires, mais on a pu refaire que les enfants soient scolarisés. Donc, on vit toujours, dans l'inquiétude qu'un jour, un de ces enfants... soit retiré de l'école ou n'importe, parce qu'on n'est pas à l'abri de ça. Mais on fait tout pour que Patricia puisse régulariser sa situation. Elle, de son côté, fait tout pour participer avec des petits boulots, avec... elle aide aussi, elle fait du bénévolat, comme tout à l'heure le disait Farhanaz, c'est pareil.
Il y a le témoignage de Maria et de sa mère Patricia, à retrouver aussi en podcast sur le site de Radio MDM. Je me permets de le préciser si vous voulez plus d'éclairage, très chers auditeurs, sur cette histoire en particulier. Maître Savary Goumi, vous m'avez parlé d'un impensé politique des questions migratoires. Est-ce que ça se traduit un petit peu dans cette histoire aussi?
Alors, ça se traduit en fait de façon complètement globale en matière de politique de droit des étrangers en France. Aujourd'hui en France, le corpus législatif et le code des étrangers qui s'applique n'est pensé qu'en termes de frontières et en fait en termes de protection des frontières. C'est-à-dire qu'on est dans l'idée que finalement, si on est du bon côté de la frontière française, tout va bien. On est français, on peut y rester. Si on est de l'autre côté, avec quand même la question de Schengen, mais néanmoins si on est de l'autre côté, on est du mauvais côté et il faut avoir un motif juridique que l'on peut prouver pour avoir le droit d'entrer sur le territoire français. Le problème, c'est que ce cadre juridique aujourd'hui, il devrait être amené à évoluer en matière d'asile et en matière de titre de séjour de façon plus globale, parce qu'on sait très bien qu'on est à la veille, de ce qu'on appelle une crise migratoire, mais qui au fond, à mon sens, n'est pas une crise puisque ça ne sera certainement pas passager. Les migrations, elles sont
par rapport à la crise climatique, vous voulez dire?
En général, exactement, par rapport à la crise climatique ou à d'autres crises d'ailleurs liées à des déstabilisations politiques dans certains pays, hein, mais qui ont souvent aussi des causes et soit climatique, soit économique. On est à la veille de, enfin, on est à la veille. On est déjà, en fait, hein, dans un mouvement de population très important au niveau mondial, en lien avec à la fois ses aspects climatiques et ses aspects politiques. Et finalement, aujourd'hui, nous, on continue à raisonner en matière de frontières, avec des motifs extrêmement stricts pour pouvoir intégrer le territoire européen ou le territoire français. Et comme on l'a vu aujourd'hui dans votre émission par plusieurs exemples, ben, finalement, ne serait-ce que pour l'asile, c'est très difficile de prouver que l'on est effectivement soumis à des persécutions dans son pays d'origine, quand bien même on en a vécu réellement. Parce que, voilà, il faut avoir des preuves intangibles, non contestable de ces difficultés. Donc c'est vrai qu'on a une vraie difficulté en Europe à penser la question migratoire et à penser la question des frontières, à harmoniser les politiques au niveau des pays européens. Et ce que ça engendre derrière qui est très problématique, c'est que finalement la migration et les mouvements migratoires deviennent une arme contre l'Europe. Et c'est ce qu'on voit en ce moment en Biélorussie avec le comportement de M. Loukachenko, qui est qu'il utilise la question migratoire et la faiblesse de l'Europe à traiter ce sujet là et avoir une position à la fois humaniste mais aussi réaliste pour menacer l'Europe d'une invasion de migrants qui n'est pas une invasion puisqu'on parle que de 3 ou 4 000 personnes hein, qu'il a fait volontairement parfois venir sur son territoire en leur promettant des visas et en leur promettant une scolarité en Europe ensuite. Et on est vulnérable et l'Europe est vulnérable et la France aussi l'est parce qu'elle n'est pas capable de réfléchir ce sujet là et d'adapter son corpus législatif et réglementaire à cette question qui est aussi une question humanitaire, une question politique.
Et là revient cette obsession des frontières dont vous parliez aussi, avec cette masse de population qu'on pose à la frontière polonaise. Finalement, eux, ils sont victimes aussi d'agressions des deux côtés.
Organisées en plus, a priori.
Ce qui est tragique. Les réponses européennes, jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, l'une comme l'autre, par rapport à cette situation à la frontière ?
J'en pense que pour les politique de façon générale européen, c'est plus facile de traiter la question migratoire en traitant la question de la peur et en valorisant le sentiment nationaliste des populations européennes, plutôt que de dire à un moment peut-être que la notion de frontière, elle n'a plus vraiment de sens, que nous sommes à l'aube de difficultés climatiques majeures, qu'aujourd'hui certains peuples sont en migration, notamment en lien avec des difficultés climatiques, des sols qu'on ne peut plus cultiver, des famines, voilà, qui entraînent aussi des déstabilisations après politiques dans les pays et des guerres. Et donc aujourd'hui, ce sont eux qui veulent changer de pays parce qu'ils n'ont pas d'avenir dans leur pays à eux et ils sont en souffrance. Demain, ce seront peut-être nous, les migrants. Donc il va peut-être falloir essayer de se saisir un peu de cette question-là, d'arrêter de réfléchir en question de nationalité, de frontières et de faire preuve d'un peu plus d'humanisme parce que sinon, je pense qu'on ne sera pas capable de relever les défis de demain, que ce soit en matière climatique, politique, juridique. Voilà.
Et justement, en parlant de questions politiques, à quelques mois des élections présidentielles françaises, vous estimez que ça risque d'avoir un impact sur la campagne ?
Moi, ce que j'aimerais que les citoyens lambda entendent, on le voit sur le territoire landais, on le voit sur tout le territoire, parce qu'on est en lien avec beaucoup de collectifs sur le territoire français. Effectivement, on nous amène la peur de l'étranger, la peur du migrant. Ce qu'on voit ici, nous, par exemple, pour revenir sur les jeunes qui arrivent d'Afrique, qui rentrent dans un parcours scolaire, qui apprennent un métier, qui peuvent être embauchés avec de l'artisanat, que ce soit dans le bâtiment, dans les métiers de bouche, qui ne demandent pas mieux que d'embaucher ces jeunes parce qu'ils ont un super profil pour eux. On est en train de batailler, ils ne peuvent pas être embauchés parce qu'ils ne peuvent pas encore obtenir de carte de séjour. Il y en a, ça fait 3 ans qu'ils sont là et qu'ils attendent. On investit quand même pour ces jeunes parce que à partir du moment où ils sont pris en charge par l'ASE, par le service d'aide protection à l'enfance, à partir du moment il faut quand même les payer leur logement, les soins, il faut payer l'école. On investit là-dedans. Ce sont avec les deniers des citoyens français. Et le retour à l'investissement, il est quoi ? C'est qu'on leur donne pas de papier. On va faire grossir l'effectif des gens qui sont dans la rue, parce que c'est bien beau de leur donner cette fameuse OQTF, obligation de quitter le territoire français. Personne va les raccompagner chez eux, ils vont rester chez nous. Alors que s'ils arrivent à obtenir qu'on leur signe cette carte de séjour sur 6 mois, 1 an et à terme plus longue, ils vont pouvoir travailler sur notre territoire. Et encore une fois, on a rencontré beaucoup d'artisans qui sont à la sortie des lycées professionnels landais en disant il faut qu'ils obtiennent des cartes de séjour pour qu'on puisse les embaucher. Il y a du travail dans les Landes, il y a des entreprises qui ferment. On l'a su par le président de la Chambre des métiers, il y a des artisans qui doivent fermer, en plus avec la crise Covid, faute de salariés à embaucher. Ces jeunes, ils ne demandent pas mieux. Donc Oui, faut arrêter de, voilà, l'angoisse de l'invasion. Voilà,
ils peuvent. Et on rejoint les propos de Maître Sawayerigumi tout à l'heure sur la manière de penser, c'est justement, ces questions
migratoires. Mais on nous fait tellement peur, surtout, j'en veux pas tous les journalistes, il y en a qui sont bien. Mmh. On nous fait tellement peur avec cette invasion, cette vague. Enfin, on emploie des termes abjects. Donc il faudrait peut-être qu'on revoie les choses autrement.
Et au fond, oui, ce sera une question pour la présidentielle, et c'est là où on peut espérer que le politique et le politique humaniste, et peut-être de gauche, mais pas que, se saisissent enfin de ce sujet-là. Parce qu'au final, aujourd'hui, cette question des migrations, elle n'est traitée que par l'extrême droite, et la droite, un petit peu, mais toujours sous le même aspect, voilà. Et c'est là qu'il faut espérer peut-être que demain, il y ait une vraie parole forte de gauche qui soit capable de traiter ces questions-là, exactement, de trouver une autre façon d'agir, enfin de sortir soit de la lâcheté, soit de la xénophobie, mais plutôt d'être dans voilà le courage, l'humanisme et de enfin montrer aussi ce qui fonctionne. Parce qu'une fois de plus, les migrations, ça ne sont pas que des sans-papiers qui sont en difficulté ou qui créent des troubles à l'ordre public. C'est aussi plein de gens qui travaillent, qui font tourner des entreprises, qui sont là au quotidien, qui sont invisibles du coup. Rendons-les visibles et sachons voilà apprécier ce qu'ils peuvent apporter à notre pays.
Merci Maître Sawayerigumi, merci Valérie El-Bakali, merci à toutes les personnes qui sont intervenues dans cette émission, merci à mon cher Arnaud qui a géré impeccablement à la technique comme d'habitude aujourd'hui. On va se quitter en musique avec la grande Georgia Smith. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un prochain Margot Guette.
MDM, on n'a pas inventé la radio, on l'a juste améliorée. MDM.
Cause she worked hard for it, but blacked out so they won't see her in it. Bust down, baby, ain't tired of this. Diamonds, baby, bought all of them. Dressed up and she just was riding. Bust down, baby, ain't tired of this.
Run it, run it now. You wanna head out, the flight leaves at noon. Wanna buy Chanel, they just dropped them two bags. They want another, now you're asking for too much. Order what you like, don't have to pay about the parties at midnight. She wants to answer that, feels so bad to feel nice. But she gon' handle that, it comes with a small price.
Yeah, I give, I give, I give, you take, been keeping track.